France Info.
Thomas Négaroff, le début du mouvement indépendantiste justement en Nouvelle-Calédonie, ça commence quand ?
On est à la fin des années 70 et c'est justement sur cette question-là, vous évoquiez les inégalités sociales, que le ferment de l'indépendantisme peut se nourrir. Et j'ai trouvé une archive vraiment intéressante de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, qui le 16 juillet 1979 est à Nouméa. Un an plus tôt, le parti indépendantiste, enfin le parti l'Union Calédonienne, s'est converti à l'indépendantisme et a pour la première fois proclamé son désir d'indépendance, poussé par une jeune génération de Kanaks comme Jean-Marie Djibaou et Éloi Machoro. Écoutez les propos du président Giscard, on est donc en 1979.
L'image de la France ne doit plus être ternie nulle part par les séquelles d'une époque coloniale qui s'éloigne dans le passé. C'est pourquoi la Nouvelle-Calédonie doit être une terre de fraternité, de justice et de progrès.
On voit donc cette problématique effectivement coloniale qu'on essaye de dépasser. Est-ce que c'est encore présent, Sarah Mohamed Gaillard, cette question-là coloniale du côté des indépendantistes ?
Je pense que l'histoire coloniale, elle est présente partout en Nouvelle-Calédonie, pas uniquement du côté des indépendantistes. Les legs coloniaux persistent et l'histoire coloniale, c'est difficile de la regarder en face, quelle que soit la communauté à laquelle on appartient. On voit bien qu'il y a des crispations aussi sur, en ce moment, sur est-ce qu'on doit être repentant, enfin jusqu'à quel point on peut faire acte de repentance. Globalement, la France joue aussi en Nouvelle-Calédonie une image, enfin une solution de décolonisation pacifique et accompagné par l'État. Et l'enjeu de l'histoire coloniale en France en général reste quand même large.
Olivier Sudry, je vous vois acquiescer à ce que dit Sarah Mohamed Gaillard.
Oui, on parle beaucoup de tensions. Je reviens de Nouméa. Moi, je n'ai pas semblé, dans la vie quotidienne, qu'elle soit si forte que ça. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce long processus de décolonisation, parce qu'on utilise bien ce terme, il est à l'œuvre quasiment depuis les accords Matignon, 88, mais surtout depuis les accords de Nouméa de 98, qui s'achèvent aujourd'hui. Et concrètement, les communautés se parlent.
Olivier Sudry, Sarah Mohamed Gaillard à la table du 12-14 de France Info. On va reprendre cette discussion dans deux minutes, juste après l'essentiel de l'actu à 13h20. David Doba.
Et d'abord cette passe d'armes entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Après les violences du 1er mai, le chef de l'État fustige les élus qui tiennent constamment un discours d'agitation. Le leader de la France insoumise évoque pour sa part des attaques indignes et mensongères. Vous connaissez la formule par cœur. Jusqu'à samedi matin, nouvel épisode de grève à la SNCF. Un TGV et un Transilien sur deux. Deux TER sur cinq en circulation. Édouard Philippe recevra les syndicats. Ce sera lundi. Rassemblement depuis 13h maintenant près du Champ de Mars. Ça coince également chez Air France. La compagnie assure 85% de ses vols aujourd'hui. Ce sera 75% demain. La consultation salariale mise en place par la direction prend justement fin d'ici 24 heures. Une page se tourne en Espagne. L'ETA doit formaliser sa dissolution. Alors, elle l'a déjà fait dans une lettre, mais elle pourrait désormais publier une vidéo. Vidéo dans laquelle apparaîtrait d'ailleurs l'un de ses chefs les plus recherchés. L'organisation, responsable de plus de 800 morts, avait été fondée en 1959. Nous étions sous Franco. Pour Mariano Rajoy, il n'y aura aucune impunité pour ses membres ou ex-membres. Gérald Darmanin porte plainte après des menaces de mort datant d'août dernier. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics est lui-même visé par deux plaintes, l'une pour viol et l'autre pour abus de faiblesse. Elles avaient été déposées par deux femmes en février. Et puis son nom a fait le tour du monde, mais c'est fini. Cambridge Analytica met la clé sous la porte. La société britannique accusée d'avoir collecté sans leur autorisation des données personnelles de plus de 50 millions d'utilisateurs est officiellement insolvable. Elle annonce cesser toute opération.
France Info. La Nouvelle-Calédonie votera le 4 novembre pour ou contre son indépendance, référendum d'autodétermination. Emmanuel Macron est sur place en ce moment pour une visite de 3 jours. Nous en parlons avec Sarah Mohamed Gaillard, maître de conférence à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Olivier Sudry, économiste au cabinet DME, spécialiste de l'Outre-mer. Thomas Négaroff est également avec nous. Emmanuel Macron a promis de ne pas se prononcer sur le référendum lui-même. Il parle en revanche d'une célébration de notre histoire commune et notamment les 30 ans de l'épisode d'Ouvéa en 1988. C'est pourtant un épisode extrêmement douloureux là-bas, Sarah Mohamed Gaillard.
Oui, c'est le paroxysme des tensions, la guerre civile qui a déchiré la Nouvelle-Calédonie au cours des années 80. Évidemment, c'est un symbole extrêmement fort, Ouvéa, mais les accords de Matignon qui ont été construits par Michel Rocard dans les semaines qui ont suivi ce drame d'Ouvéa ont sans doute été rendus possibles aussi parce que c'est le paroxysme de la violence. Après ça, soit c'est vraiment la guerre, soit il faut trouver une autre solution. Donc Michel Rocard, avec sa méthode particulière, son attention précise aux acteurs de terrain, à la volonté du dialogue, a réussi à faire basculer la Nouvelle-Calédonie du côté du dialogue renoué. Mais ça reste un élément extrêmement fort de l'histoire de la France comme de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie.
Olivier Sudrie, est-ce que c'est un épisode qui vous semble encore très prégnant
Non, il a marqué, on en parle de temps en temps, bien évidemment, mais moi ce que je regarde surtout, c'est 30 ans de paix, sans vouloir bien évidemment occulter hein, ces événements extrêmement tragiques, mais c'est 30 ans de paix. C'est d'ailleurs qu'on retrouve dans la devise du pays, hein, la Calédonie, c'est terre de parole, terre de partage, et on parle beaucoup, on a construit la paix, et la Calédonie cherche aujourd'hui à se construire son avenir en essayant de dépasser un peu ce qui a pu l'opposer au milieu des années 80.
Thomas Negar sur Ouvéa.
Oui, alors une archive. Oui. Allez, Daniel Bilalian, ça nous rappellera notre jeunesse. Le 23 avril 1988, on est juste avant la prise d'assaut, en tout cas le début de l'opération qui visera effectivement à libérer les gendarmes pris en otage dans la grotte.
Tout d'abord, les renforts de gendarmerie et de troupes continuent d'arriver sur place. Mais pour l'instant, les 27 gendarmes pris en otage par des militants indépendantistes sont toujours entre leurs mains. Et un dirigeant du FLNKS a dicté les conditions de leur libération qui passent par une annulation de l'élection régionale prévue pour demain, en même temps que l'élection présidentielle, une discussion sur un référendum d'autodétermination et un retrait des forces de l'ordre de l'île d'Ouvéa où a eu lieu le drame. Autant dire qu'on est encore loin d'un accord possible.
Mais l'autodétermination, on y est quand même, comme vous le rappeliez effectivement il y a un instant, puisque Ouvéa, qui est un paroxysme de violence, qui est dans un contexte très particulier, parce qu'en pleine cohabitation, on est en pleine élection présidentielle en France. Ça se joue à ce moment-là, d'ailleurs c'est plutôt Matignon qui gère les choses que l'Élysée, François Mitterrand. Et derrière, effectivement, victoire de François Mitterrand, réélection, nomination d'un nouveau Premier ministre, Michel Rocard, qui effectivement va ouvrir la voie à un processus dont on voit aujourd'hui les derniers moments.
Oui, donc cet épisode qui aurait pu être un point de rupture, Sarah Mohamed Gaillard, en fait, c'est le début de quelque chose.
Oui, c'est un tournant tellement fort que soit il faut trouver la solution, la clé pour écrire une nouvelle page, soit on s'enfonce dans la violence.
Oui.
Donc Michel Rocard et toute l'équipe qui était autour de lui a trouvé la clé. Les gens sur place aussi ont été fortement marqués et donc qui était plus ouvert au dialogue, mais le dialogue a quand même été un temps difficile puisque les accords de Matignon, la poignée de main échangée par Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur sur le perron de Matignon, a quand même été pour eux, dans les deux camps, difficile à expliquer aux militants. Et Jean-Marie Djibaou, comme Yewene, l'ont payé de leur vie un an après, lors de la levée de deuil d'Ouvéa le 4 mai 1989.
Le fait qu'Emmanuel Macron se rende à cet endroit aujourd'hui, ça dit quoi, selon vous ?
C'est symbolique, c'est le premier président de la République à s'y rendre. C'est sans doute une façon de reconnaître les ombres de la période coloniale française. C'est aussi une façon... L'itinéraire est très programmé. Hein. Il va aussi devant la caserne de gendarmerie, si je ne me trompe pas. Donc, il essaye de se présenter comme impartial. Il ne va pas uniquement se prosterner devant la tombe des 19 tombés.
Mais en tout cas, pas de négation de l'histoire, on pourrait le dire comme ça.
Non, pas de négation de l'histoire.
C'est ça l'idée.
Et après, je pense aussi que c'est intéressant de voir qu'on arrive à la fin du processus de l'accord de Matignon, qui a été signé, de Nouméa, pardon, qui a été signé justement à Nouméa le 5 mai 1998. Et il est aussi né d'Ouvéa, quelque sorte.
Ouais.
C'est cette rupture qu'a représenté cette prise d'otage.
Ouais, Thomas Negaroff, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces événements qui remontent à 30 ans en arrière.
Oui, effectivement, la présence d'Emmanuel Macron, elle est ultra symbolique, notamment parce que dans la culture, dans la mentalité, dans l'histoire des indépendantistes, Ouvéa, c'est aussi, selon eux, l'exécution sommaire plus d'une dizaine de leurs militants par l'armée, qui n'a pas uniquement libéré les otages gendarmes français, mais qui a aussi exécuté. Donc j'attends vraiment les mots du président Macron, qui aime beaucoup ce genre de discours, où il est, on l'a vu, souvenez-vous, hein, pendant la campagne présidentielle, il avait évoqué un crime contre l'humanité pour parler de la présence française dans les colonies. On en avait beaucoup parlé à ce moment-là. Il est capable de sortir de ce genre-là. Moi, j'attends avec impatience les mots qu'il va prononcer. C'est extrêmement sensible à quelques mois en plus d'un référendum.
Je reviens un instant à l'économie. Olivier Sudry, à quel point la métropole a-t-elle besoin de la Nouvelle-Calédonie et en quoi la Nouvelle-Calédonie a-t-elle été un investissement vraiment stratégique pour la métropole ?
Oui, je crois que la présence française en Calédonie, son histoire hein, partagée, ne s'explique pas par l'économie.
D'accord.
Et des deux côtés, je dirais, la Calédonie ne coûte pas à la France. On l'entend de temps en temps, c'est absurde. Et d'un autre côté, elle ne rapporte pas. Je veux dire, la Calédonie a un statut qui est le sien actuellement, mais il n'y a pas d'enjeu économique vraiment au rattachement de la Nouvelle-Calédonie dans l'espace national.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à la table du 12-14 de France Info aujourd'hui. Olivier Sudry, économiste au cabinet DME, et Sarah Mohamed Gaillard, maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales.